VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Bonsoir, Abdourahman Dia pour vous présenter cette édition de 17h30 GMT du 31 janvier 2017 au sommaire. L'armée congolaise s'explique sur le crash de deux hélicoptères et dément la thèse d'une attaque. La Cour suprême mauritanienne ordonne l'ouverture de nouveaux procès pour le blogueur condamné à mort pour apostasie. Le président Donald Trump renvoie la ministre de la Justice par intérim qui avait refusé de défendre son décret sur l'immigration alors que les démocrates retardent la confirmation par le Sénat de son nouveau ministre de la Justice. Dans la partie magazine, nous reviendrons sur l'insécurité dans le nord du Burkina où des enseignants ont récemment été menacés par des hommes armés. Ne ratez pas les informations sur la CAN 2017 avec Nicolas Pineau et l'actualité économique. Mais tout d'abord, le journal. En République démocratique du Congo, après le crash de deux hélicoptères de l'armée congolaise le vendredi dernier, l'armée donne sa version des faits. Elle dément la version d'une attaque et parle plutôt d'une panne technique. De Goma, la correspondance de Charlie Kasereka.
Les deux hélicoptères Mi-24 ont connu une panne technique et n'ont pas été abattus, a tenu à préciser le général Jean-Léo Mouchale qui dirige la troisième zone de défense comprenant la partie est de la RDC. Il confirme par ailleurs la présence du chef rebelle Sultani Makenga Diem 23 dans les triangles situés à la frontière entre la RDC, l'Ouganda et le Rwanda dans la région du volcan Mikeno.
Je dément formellement cette version d'abattage. Deux de nos hélicoptères sont tombés dans un vent qui était coincé entre les deux montagnes, à des endroits très distants de 1 km 300 mètres. Trois personnes parmi les quatre qu'il avait pris dans l'hélicoptère ont succombé.
L'unique survivant parmi les quatre membres de l'équipage, qui est un instructeur russe, a été amené par les chefs rebelles Makenga dans sa fuite, selon un jeune mineur de 16 ans capturé sur les lieux de combat et qui confirme avoir été recruté il y a 2 semaines au Rwanda par des collaborateurs d'IM23. Le mouvement du 23 mars en 23 est un ancien groupe rebelle composé essentiellement des membres de la communauté Tutsi de la RDC ayant fui après avoir été défait fin 2013 par l'armée congolaise à l'issue des 18 mois de combat ici au Nord Kivu. Des centaines de ces combattants ont alors fui vers le Rwanda et l'Ouganda, deux pays voisins de la RDC dans sa partie est. Charles Kasereka depuis Goma pour VOA Afrique.
Clôture du sommet de l'Union africaine ce mardi à Addis Abeba, en présence du roi Mohamed VI au lendemain de la réintégration du Maroc au sein du bloc continental. Les dirigeants africains ont élu le nouvel exécutif de l'organisation panafricaine. Le point avec Morgane Guiriec.
À la tête de ce nouvel exécutif, on retrouve le ministre tchadien des Affaires étrangères, Moussa Faki Ahmad. Le chef d'État tchadien Idriss Déby Itno a quant à lui cédé la place de la présidence tournante à Alpha Condé. Le chef d'État guinéen a appelé le continent à marquer sa solidarité avec la Somalie, la Libye et le Soudan, visés par le décret controversé du président américain Donald Trump. Alpha Condé a également rappelé la revendication africaine pour une réforme de la composition du Conseil de sécurité des Nations Unies afin que l'Afrique dispose d'un poste de membre permanent. Le nouveau président en exercice de l'Union africaine a également édicté les nouvelles règles de conduite, à commencer par la ponctualité. Comment veut-on expliquer que quand nous avons des réunions avec des pays extérieurs, nous sommes à l'heure, que ce soit en Chine, au Japon et en Inde? Et pourquoi ne serions-nous pas à l'heure à nos réunions? S'est-il insurgé?
En Gambie, le chef de la force de la CEDEAO a annoncé l'arrestation d'un général de la garde présidentielle de l'ex-président Yahya Jammeh. 4 membres de la garde rapprochée de l'épouse de l'ancien chef de l'État exilé en Guinée équatoriale ont également été arrêtés alors qu'ils tentaient de revenir en Gambie. Par ailleurs, la CEDEAO annonce la saisie d'armes trouvées au domicile de Yahya Jammeh dans son village natal de Kanilaï. En Mauritanie, la Cour suprême a décidé que Cheikh Ould Mohamed Ould Mertir, condamné à la peine capitale, sera rejugé par une nouvelle cour d'appel différente de celle qu'il a déjà condamnée à mort. La date du nouveau procès n'a pas été précisée. Des milliers de Mauritaniens ont manifesté à Nouakchott pour réclamer l'exécution du prévenu, reconnu coupable pour apostasie après un blog jugé insultant pour l'islam. Maître Brahim Ould Ebedi, avocat à Nouakchott.
La Cour suprême a cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Ouagadougou et a renvoyé le dossier devant une autre Cour d'appel autrement composée. Ça signifie que l'affaire va être réjugée par la Cour d'appel de Ouazibou, autrement composé, puisque la Cour suprême a considéré qu'il y a eu des entorses à la bonne application de la loi.
C'était Maître Birahim Ould Ebedi, avocat mauritanien. En Côte d'Ivoire, le procès de 10 personnes, la plupart des militaires accusés d'enlèvement et d'assassinat de 4 hommes en 2011, a été reporté au 21 février, peu après son ouverture ce matin à Abidjan. Les détails avec Tatiana Mosso.
Le juge Mourlaï Sisseko a évoqué des difficultés sérieuses et l'absence de 5 accusés sur 10. Le procès avait débuté avec plus de 3 heures de retard au palais de justice de Yopougon, un quartier d'Abidjan. Le directeur de l'hôtel Novotel d'Abidjan, Stéphane Franz Diripel, Yves Lamblin, directeur général de Sifka, plus grand groupe agro-industriel ivoirien, son assistant béninois Raoul Adeossi et le malaisien Chelian Pandian, directeur général d'une filiale de Sifka, avaient été enlevés par un commando militaire le 4 avril 2011 pendant les combats d'Abidjan. Ils avaient été torturés et tués selon le nouveau gouvernement. Selon l'acte d'accusation, 5 des 10 accusés, dont le général Bruno Dogbeblé, qui commandait la garde républicaine, sont poursuivis pour séquestration et assassinat, les autres pour enlèvement et ou disparition de cadavres. Un enquêteur indépendant a dit à l'AFP sous couvert d'anonymat que les 4 hommes ont été victimes d'un enchaînement malheureux de circonstances. Leur mort n'aurait pas été prémédité. Dogbeblé aurait été dépassé par les événements et sous la pression des patriotes alors que la bataille pour le pouvoir tournait en faveur du camp Ouattara.
Le négociateur nigérien de la libération en 2013 de 4 otages français enlevés au Niger a nié tout détournement d'une partie de la rançon et tout lien avec le rapt et l'assassinat quelques jours plus tard au Mali de 2 journalistes français. Mohamed Akoté a fait ce démenti dans une interview chez nos confrères de RFI. Un ancien directeur du renseignement français avait évoqué des rumeurs selon lesquelles la somme qui avait été donnée était incomplète. Au Nigeria, une fille d'une dizaine d'années est morte après la détonation d'une ceinture d'explosifs qu'elle portait. Elle s'est fait exploser à l'entrée d'un camp de déplacés alors que les forces de sécurité lui ont demandé de se soumettre à un contrôle de routine.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Hors du continent, le président américain Donald Trump a limogé la ministre par intérim de la justice qui avait refusé d'appliquer son décret restrictif sur l'immigration, un décret qui continue de dominer les débats ici à Washington. Les explications de Dilly Dico.
Le président Trump a relevé Sally Yates de ses fonctions et a nommé Dana Bowent pour assurer l'intérim à la tête du ministère de la Justice, en attendant la confirmation par le Sénat de la nomination du sénateur Jeff Sessions. Monsieur Bowent, juge fédéral, a immédiatement annulé les instructions de Madame Yates, qui avait ordonné au juge de ne pas appliquer le décret de Monsieur Trump. Vendredi, le président américain a interdit temporairement l'entrée aux États-Unis des ressortissants de 7 pays à majorité musulmane et de tous les réfugiés. Des centaines de manifestants se sont rassemblés hier devant la Cour suprême pour scander des slogans tels que « pas de haine, pas de peur, les réfugiés sont les bienvenus ». Et M. Trump doit d'ailleurs annoncer ce soir son choix pour le 9e juge à la Cour suprême.
L'Iran appelle les États-Unis à ne pas chercher à créer de nouvelles tensions à propos de son programme de missiles balistiques. Les États-Unis et Israël ont accusé l'Iran d'avoir effectué un nouveau tir de missile à moyenne portée. Téhéran affirme que la nation iranienne n'attend pas l'autorisation des autres parties pour se défendre. Les missiles iraniens ne sont pas conçus pour porter des têtes nucléaires, a insisté le chef de la diplomatie iranienne. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a affirmé que le président américain Donald Trump et l'Alliance Atlantique partagent l'avis qu'un dialogue avec la Russie à partir d'une position de force est nécessaire. Le nouveau président américain a inquiété ses alliés européens en prônant une ligne plus souple vis-à-vis de Moscou et en qualifiant l'OTAN d'obsolète. Et puis en France, des enquêteurs se sont rendus au Parlement pour saisir des documents liés à l'enquête sur des soupçons d'emploi fictifs pesant sur François Fillon, candidat de la droite à la présidentielle française. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Place maintenant au journal de la CAN avec Nicolas Pinot.
Encore une fois, Polo Samba. Bonsoir à tous. J-1 avant la première demi-finale à Libreville entre le Burkina Faso et l'Égypte. Un duel a priori déséquilibré entre les étalons finalistes de l'édition 2013 et des pharaons septuples vainqueurs de la CAN. Mais les Burkinabés y croient et continuent de se préparer sereinement à Libreville. On retrouve sur place en direct l'envoyé spécial de VOA Afrique au Gabon, Timothée Donangma. Et Timothée, bonsoir.
Bonsoir Nico.
Alors Timothée, évidemment, ce soir, place aux conférences de presse d'avant-match. Paolo Duarte a fait face au journaliste, le sélectionneur du Burkina Faso.
Oui Nico, Paolo Duarte est venu en compagnie du défenseur Bakary Koné. Le coach burkinabé a expliqué que l'Égypte est une équipe qui défend bien et qui attaque bien avec 4 ou 5 joueurs à la fois. À la question de savoir ce qu'il compte faire contre le phénomène égyptien Mohamed Salah, Duarte a dit que la question doit être adressée plutôt à son homologue égyptien Hector Cooper pour lui demander ce qu'il compte faire contre Bertrand Traoré. Donc Duarte se dit confiant, il dit qu'il a bien travaillé avec son équipe et qu'il entend aller jusqu'au bout. Même optimisme du côté de Bakary Koné, qui lui a dit qu'il était adolescent encore lorsqu'il a suivi à la télé avec ses parents l'élimination à Bobo Dioulasso du Burkina Faso par l'Égypte en demi-finale de la CAN 98. Il s'est rappelé que cela avait causé une grande douleur à l'époque et que c'est aujourd'hui une motivation supplémentaire à cette CAN. Ensuite, c'est le coach Hector Cooper et le gardien El Hadary qui sont venus pour la conférence égyptienne. Hector Cooper a dit qu'avant d'aller en Égypte, il était au courant du prestigieux passé des pharaons et de leurs 7 titres continentaux. Il a dit cependant que l'histoire reste l'histoire et que ce qui est important aujourd'hui, c'est la CAN 2017 et qu'il faut se donner les moyens de la remporter. Il a dit qu'il a une équipe solide, talentueuse et qui est prêt à aller jusqu'au bout. De son côté, le gardien El Hadary lui a dit qu'il raconte souvent aux jeunes joueurs de l'équipe égyptienne les CANs passées dont il a remporté le trophée avec les pharaons. Il a dit qu'il leur donne des conseils sur la manière, sur la psychologie gagnante pour de telles compétitions. Il dit qu'il soutient ces jeunes-là pour que l'Égypte puisse remporter son 8e titre.
Merci beaucoup Timothée Donangma et l'envoyé spécial de VOA Afrique sur cette CAN au Gabon. Et jeudi, place à la demi-finale entre le Cameroun et le Ghana. Léger avantage aux Black Stars qui joueront leur 6e demi-finale d'affilée, tandis que les Lions indomptables n'avaient pas atteint ce niveau depuis 2008. Retour sur ces deux demi-finales avec Jules Valentin-Goué dans son coup de sifflet.
Bonsoir. Le ciel s'éclaircit progressivement dans cette CAN gabonaise 2017 qui a finalement dévoilé son carré d'as avec une représentation équilibrée comme l'a été tout le tournoi. L'Afrique du Nord a un représentant sur 4, l'Afrique centrale 1/3 et l'Afrique de l'Ouest avec ses 2 représentants sur 7 au départ voit sa suprématie de ces dernières années proportionnellement atténuée. Les affiches ultimes avec un Burkina Faso, Égypte à Libreville et un Cameroun-Ghana à Franceville dévoilent en fait la suprématie des groupes A et D là où les supposées poules de la mort ont accouché d'une souris. Le suspense qui a accompagné la compétition reste présent à la veille des oppositions peu attendues des demi-finales. Tout le monde avait oublié que le Burkina Faso, finaliste brillant de l'édition 2013, n'était pas là par hasard puisqu'il reconduit intégralement un groupe arrivé à maturité, ce qui lui donne paradoxalement un statut de favori face à une formation égyptienne solide comme à l'accoutumée, mais quand même en cours de reconstruction. Le Cameroun-Ghana de Franceville voit aussi les Black Stars, vice-champions d'Afrique en 2015, revenir avec le même effectif revanchard pour un succès qui leur avait échappé par malchance à la dernière édition. Mais ils doivent se souvenir que le Cameroun qu'ils ont pu affronter est tout de même la seule équipe qu'ils n'ont jamais battue à la CAN, concédant même une défaite pour un nul. Vous l'avez compris, ne pariez pas. Le suspense initial s'entête à perdurer. Soyez patients, à demain.
Voilà, et on rappelle les demi-finales mercredi Burkina Faso, Égypte et jeudi le Ghana contre le Cameroun. Ainsi s'achève ce journal de la CAN. Prochain point sur le tournoi demain matin sur notre antenne. Entre-temps, rendez-vous sur notre page Facebook et notre site voaafrique.com.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Et on passe tout de suite à l'actualité économique en Afrique. C'est dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Eric Manirakiza.
Au Tchad, la croissance a chuté de 1,1% en 2016. Membre de l'OPEP depuis 2003, l'économie du pays dépend de l'or noir dont les prix ont baissé. À cela s'est ajoutée la pluviométrie insuffisante et la dégradation sécuritaire qui ont conduit N'Djamena dans une récession. Par contre, la Tunisie prévoit une croissance économique de 2,5% en 2017, malgré des troubles politiques et des protestations sociales qui déstabilisent son économie. Tunis envisage de lever 2 milliards d'euros sur les marchés internationaux. D'autres pays tirent également profit du retour en force de l'Afrique sur le marché international. Les capitaux avoisinent 6,58 milliards de dollars. L'Égypte est en tête avec 4 milliards d'investissements. Le groupe sud-africain Sibanye-Gold a mobilisé 1,35 milliard, l'ABAD 1,07 milliard, tandis que African Finance Corporation a emprunté 150 millions. Le Nigeria va contracter 1 milliard pendant que le Kenya est intéressé par un eurobond de 800 millions de dollars.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. Dans le nord du Burkina Faso, plusieurs enseignants affirment avoir reçu des menaces d'hommes armés leur intimant l'ordre d'enseigner désormais l'arabe. Plusieurs enseignants ont déjà fui la zone. Bagassi Koura a joint Ilyasa Sawadogo, enseignant à l'école Petega dans le cercle de Nassoubou, qui explique pourquoi il a abandonné son poste.
Il y avait deux hommes armés à moto qui sont arrivés, disant de fermer l'école. Ou, si on veut rester à l'école, on enseigne l'arabe ou bien on quitte.
Et comment vous avez réagi?
Bon, devant une arme que tu n'as jamais vue, la réaction est claire, on a obéi. Les gars étaient en tenue de nos militaires.
Et c'est les hommes que vous connaissez?
Non, ils étaient cagoulés, donc l'autre était à visage découvert, mais je le connais.
Et en ce moment, vous continuez à enseigner ou est-ce que les écoles sont fermées?
Non, des gens qui ont dit de ne pas rester. Ils revenaient nous trouver là-bas. Et ça, c'est une prévention. Ils viennent de nous prévenir. Ils reviennent nous trouver, donc il n'y a plus de mesures, c'est feu. Dans ça, moi, en tout cas, je ne peux pas dire qu'il y a quelqu'un à l'école.
Alors...
Moi, précisément, je ne suis pas à l'école.
Oui, vous n'êtes pas à l'école. Est-ce que c'est la seule école qui a été menacée?
Ce n'est pas la seule école d'après les paroles, mais ce que moi j'ai vécu, que je peux parler dans les autres écoles. En tout cas, j'ai eu les informations qu'il y a d'autres écoles aussi qui ont été menacées.
Donc en ce moment, les écoles sont fermées dans le cercle de Nassoubou?
Je ne suis pas actuellement dans la CEP.
Oui.
Donc je ne peux pas dire que toutes les écoles sont fermées.
Oui.
Je ne pense pas repartir.
Vous n'êtes pas là-bas à cause de la situation sécuritaire?
Voilà, réellement, parce que j'ai reçu des menaces, donc je ne peux pas. Des gens qui disent que si je passe l'information, là où je pars, ils vont me retrouver, donc je ne peux pas. Même dans la zone, je pense que je ne peux pas, parce que c'est difficile de vivre, de voir ça. Face à toi et puis tu vas dire que tu vas répartir.
Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres confrères qui sont dans votre situation, qui ont aussi abandonné leur poste?
Non, à l'école, je suis avec des collègues. Donc, en tout cas, je pensais qu'il y a quelqu'un toujours à l'école. En tout cas, on m'a trouvé à l'école, mais les autres étaient... Bon, ils ont eu des informations avec moi, donc personne n'est là-bas en tout cas.
Et où sont les forces de sécurité alors dans la zone?
C'est difficile de répondre à cette question.
Vous ne les voyez pas alors?
Et en tout cas, si je dis que je les ai vus ce jour, je ne les ai pas vus ce jour. Je vais bouger là-bas sans les voir. En tout cas.
Et qu'est-ce qu'il faudra pour que vous vous retourniez là-bas?
Retourner dans la même école?
Oui, dans la zone pour travailler, puisque vous êtes fonctionnaire.
Oui, exactement, je suis fonctionnaire, mais la vie avant tout. Pour retourner dans la même école, il faut de la sécurité. Maintenant, ils sont venus à l'école. Sinon, dans les villages, ils venaient tirer sur les gens. Il tue les gens un à un dans le village, disent qu'ils me connaissent. Donc, je ne peux pas dire que je vais repartir là-bas comme ça. Même mes affaires sont là-bas, je ne pense pas aller les ramasser moi-même.
C'était Ilyasa Sabadogo, enseignant à l'école Petega dans le cercle de Nassoubou, dans le nord du Burkina Faso.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Le Conseil de sécurité des Nations Unies proroge d'1 an l'embargo sur les armes à destination de la République centrafricaine. Une décision prise le 28 janvier dernier alors que le pays espérait la levée de cette sanction. Comment cette décision a été accueillie en RCA? Correspondance de Freeman Sepila à Bangui.
Les Centrafricains qui espéraient voir la levée de cet embargo ont été surpris d'apprendre sa prolongation.
C'est une chose inacceptable.
On ne peut pas être dépendant de cet pays. Nous devons avoir l'initiative d'être autonome. Des reports.
Je crois que ce n'est pas normal, puisque ce n'est pas pour la première fois.
Si maintenant on va de report en report, quand est-ce que RCA aura sa souveraineté en matière de sécurité?
Nous sommes très conscients que c'est nous-mêmes qui dépendons de notre sécurité et nous voulions ce que les forces armées centrafricaines assurent la sécurité des Centrafricains.
La Ligue centrafricaine des droits de l'homme dit ne pas être surprise de cette décision. Pour elle, il ne s'agit pas d'un embargo, mais plutôt d'une punition du peuple centrafricain. L'ancien ministre de la Défense, Joseph Bindoumi, est son président.
Le maintien ou la prolongation de l'embargo ne devrait pas se calculer en termes de formation des militaires. Ou pas, ça devrait se calculer en termes de nombre de personnes qui vont encore mourir. Nous sommes membres des Nations Unies. Nous ne devons pas être là en train d'être punis. L'embargo, aujourd'hui, n'est pas considéré comme une sanction des Nations Unies, mais comme une punition du peuple centrafricain.
À l'Assemblée nationale, les députés ont à plusieurs reprises interpellé les nouvelles autorités sur les démarches menées en faveur de la levée de cette sanction. Jean Bosco Namtoa, député de Bouka 1, se dit déçu.
Moi, je suis totalement déçu parce que un État sans son armée n'est pas un État. Dans nos provinces, il y a l'insécurité qui règne. La population souffre. Alors, cette population a besoin de son armée. Mais dire qu'on a prolongé la levée d'embargo, vraiment, je suis totalement déçu de la situation.
De son côté, le gouvernement se veut optimiste. Le ministre de la Défense, Joseph Yakété, indique que malgré cette prolongation, il existe des alternatives pour réarmer les forces de défense et de sécurité centrafricaines.
C'est un coup dur pour notre pays. En même temps, c'est prévisible parce que l'expérience nous montre que partout là où il y a eu l'embargo sur l'importation des armes, l'embargo ne s'est jamais levé d'un seul coup. Ça a été de façon progressive. Je me satisfais aussi d'un aspect, c'est qu'aujourd'hui, si nous répondons à un certain nombre de critères définis par le comité des sanctions, nous avons la possibilité de nous procurer donc l'armement qu'il faut pour équiper nos soldats qui ont fini leur formation.
En 2014, le Conseil de sécurité de l'ONU a imposé un embargo sur les armes à destination de la République centrafricaine alors que le pays était en proie à des violences intercommunautaires. Freeman Sepila, Bangui, VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Bangui, c'est sur 101.7 FM en République centrafricaine.
À Libreville, l'abondance des produits maritimes surgelés n'a pas entamé l'appétit des consommateurs pour le poisson frais, un appétit qui fait vivre de nombreux pêcheurs artisanaux. Timothée Donangbaï est allé à la rencontre d'un groupe de pêcheurs de la Sablière, un quartier périphérique de la capitale gabonaise. Voici son reportage.
Ils sont gabonais, béninois, nigériens et autres ouest-africains et pêchent à la Seine, un long filet que l'on déploie dans un grand arc, puis qu'on referme progressivement pour attraper le poisson. Leur lourde pirogue sortie de l'eau, c'est le moment tant attendu, l'ouverture de la poche de la Seine pour examiner la prise. Le pêcheur Toul Niavor.
Il y a le millet, il y a le bas, le capitaine, et le disque, la béquille, toutes sortes de poissons.
Qu'est-ce qui rapporte le plus en termes de prix?
Le petit capitaine, avec les millets.
C'est une prise moyenne pour la quinzaine de membres du groupe. Lorsque la pêche est bonne, ils peuvent avoir trois fois plus de poissons, assure-t-il. Steve Bembo, âgé de 39 ans, est un musicien gabonais qui s'adonne aussi à la pêche.
En ce moment, si nous n'avons pas beaucoup de kilos, c'est au moins 250 kilos. 250 kilos de poissons, hormis ce que les femmes et les enfants prennent pour aller manger.
Les pêcheurs trient le gros poisson qu'ils placent dans de grandes bassines pour la vente. Puis les femmes et les enfants qui les ont aidés à tirer le filet et sortir la pirogue de l'eau se précipitent sur le menu fretin. Tony Avor. Ah non, vous avez dit que ça c'est la phase de quoi là?
La tabac. C'est-à-dire, chacun essaye de voir ce qu'il peut prendre pour lui-même. Donc, les enlever, ce qui nous compte. Mais là, le reste, pour les femmes et les enfants.
Certains prennent leur part dans des seaux, d'autres la déversent simplement par terre en attendant de trouver un récipient. Les mères de famille parmi eux assurent qu'elles parviennent à nourrir leur maisonnée en venant chaque jour donner un coup de main aux pêcheurs. À côté, les pêcheurs ont déjà trouvé leur première cliente. C'est Roselyne Asengo, une habitante de Libreville qui vient régulièrement s'approvisionner à la sablière.
Là, j'ai acheté le capitaine et les barres et la sole, le disque.
Combien de kilos en tout?
Ça fait combien de kilos, Michel?
8, 13 kilos.
Ça fait 13 kilos en tout. Ça fait 32 000.
C'est un bon prix?
Oui, c'est un très bon prix par rapport au marché. Le marché, c'est 4 000 au kilo, 3 500.
Les pêcheurs artisanaux connaissent quelle espèce ils peuvent attraper, souligne le musicien pêcheur Steve Mbembo.
Il y a des restrictions parce que, comme les tortues, par exemple, des mers, aujourd'hui, nous avons des interdictions de les pêcher. Donc, même quand ils arrivent dans nos filets, nous les libérons.
Dernière précaution après la pêche, les femmes et les enfants creusent des trous dans le sable pour enterrer tout ce qui n'a pas été récupéré. Question de ne pas polluer la plage. Timothée Dunangmaï, Libreville, VOA Afrique.
Dans Washington Forum, ce jeudi, le grand retour du Maroc dans l'Union africaine. 39 chefs d'État sur 54 se sont prononcés en faveur de ce retour. Qu'en pensez-vous? Le Tchadien Moussa Faki Mahamat à la tête de la Commission de l'Union africaine. Quel défi pour le nouvel homme fort de l'UA? Le décret sur l'immigration de Donald Trump, quelles conséquences pour les pays du continent? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de voaafrique.com et rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel avec Tatiana Mosso et ses invités.
Le décret controversé de la nouvelle administration américaine sur l'immigration continue de provoquer un tollé mondial et des manifestations aux quatre coins des États-Unis. Il interdit temporairement l'entrée sur le territoire national des ressortissants provenant de sept pays majoritairement musulmans. Le point avec Jacques Aristide.
Né en Somalie et résident dans le Minnesota, le réfugié Farhan Anshour était soulagé lorsque sa femme et ses enfants ont finalement été autorisés à le rejoindre après avoir été détenu dans un aéroport près de Washington D.C. Farhan Anshour.
Enfin, nous sommes tous ici. J'ai maintenant toute ma famille réunie avec moi.
Le décret interdit l'entrée aux États-Unis des citoyens d'Iran, d'Irak, de la Libye, Somalie, du Soudan, de la Syrie et du Yémen pendant 90 jours. Les détenteurs de passeports de ces pays n'étaient pas autorisés à monter à bord des vols en direction des États-Unis et ceux qui étaient déjà en cours de route étaient temporairement détenus à leur arrivée. La Maison-Blanche s'est excusée pour ce qu'elle a décrit comme un inconvénient mineur. Mais selon une ancienne candidate présidentielle somalienne, cette mesure a des effets multiples. Écoutons Fadou Modaïb.
Je devais faire partie d'un panel de discussion à la Harvard Business School ainsi qu'à la Harvard Kennedy School. Mais je ne pourrai pas y aller en raison de cette interdiction de voyager.
Fadou Modaïb se dit plus préoccupé pour les réfugiés somaliens au Kenya qui ont eu le feu vert pour se réinstaller aux États-Unis.
Et maintenant, on leur arrache cette chance juste parce qu'ils se trouvent être des musulmans ou parce qu'ils sont originaires d'un pays qu'ils n'ont pas choisi.
Une organisation de défense des droits des musulmans aux États-Unis affirme qu'elle contestera le décret devant les tribunaux. Léna Masri, directrice nationale de la section des litiges de CARE.
Cette action légale concerne la Constitution et elle a été déposée au nom de plus de 20 musulmans constitués à la fois d'Américains et de non-Américains qui résident légalement aux États-Unis.
Une actrice suédoise d'origine iranienne se dit inquiète car elle croit que la mesure pourrait l'empêcher de venir assister à la cérémonie des Oscars le mois prochain. Bahar Pars incarne l'un des rôles principaux dans le film A Man Called Ovi, nommé pour un Oscar. Et une compositrice britannique d'origine iranienne est incertaine quant à sa participation à l'ouverture de son opéra à Pittsburgh en avril. Susan Lolavar.
Cela me fait certainement réfléchir au sujet de mes liens avec l'Amérique.
Pour les critiques, la mesure pourrait entraîner des conséquences beaucoup plus négatives, sans renforcer la sécurité des États-Unis.
Ah, cet élément met fin à cette édition. À la mise en onde, il y avait Lionel Gaïma, à la console Nashwan Kale. Présentation Abdourahman Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24h sur 24. Au revoir.